Madame, monsieur, bonsoir.
Jusqu'alors, nous avions essayé de ne pas trop montrer notre inquiétude à propos du sort d'Alain Colas.
Le radar a été perdu vers 19h à la hauteur du Mont Saint-Odile, près de Strasbourg.
Et sur le mur, écrit avec des lettres de sang, Omar, le nom du jardinier.
Il est certain que ce jugement est à l'image même du désarroi des juges devant cette loi sur l'avortement.
Fait d'hier. Chaque mois, Femme Actuelle Senior vous replonge dans une affaire qui a défrayé la chronique. Revivez les événements comme si vous y étiez et découvrez le fin mot de l'histoire. Dans cet épisode, Bobigny, le procès qui a tout changé pour les femmes. Dans la nuit du 20 novembre 1971, une toute jeune fille de 16 ans, Marie-Claire Chevalier, est découverte par sa mère au pied de son lit, gisant dans une flaque de sang. Elle est admise en urgence dans une clinique de la région parisienne. Le médecin l'ausculte. Il découvre qu'une sonde artisanale, une simple gaine de fil électrique, a été glissée dans son utérus. La méthode est fréquente chez les faiseuses d'anges, ces femmes qui pratiquent des avortements clandestins. Mais elle entraîne souvent des hémorragies qui peuvent être fatales. Il sermonne brutalement Marie-Claire. « Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait ?» Et en guise de punition, il lui administre un curetage sans anesthésie. Marie-Claire ne s'en sort pas trop mal. Elle se rétablit rapidement. Elle l'ignore encore, mais ce n'est que le début de son calvaire. Bientôt, l'attention de toute la France va se focaliser sur elle. Tout avait pourtant commencé comme un conte de fées. L'été précédent, la jeune fille passait comme chaque année ses vacances chez elle, à Neuilly. Pas la ville bourgeoise de l'Ouest parisien, non. L'autre Neuilly, comme elle dit. Neuilly-Plaisance, la cité dortoir du 93. Le cadre ne fait peut-être pas rêver, mais il y a les copains. Et puis cet ami d'amis, Daniel, 18 ans. La jeune fille voit en lui un prince charmant. Mais derrière le masque séduisant se cache en réalité un voyou. Il a déjà eu affaire à la justice pour plusieurs petits délits. Ce soir d'août 71, ils sont nombreux chez Daniel, filles et garçons, à écouter des disques en bavardant. Les copains partent peu à peu. Marie-Claire se retrouve seule avec celui qu'elle croit être un bon camarade. Soudain, le garçon l'entraîne dans sa chambre et la jette sur le lit. Il déchire ses habits, lui arrache sa culotte. La jeune fille hurle de peur et se débat. Daniel saisit une paire de ciseaux. Il menace de lui crever les yeux si elle résiste encore. La première expérience sexuelle de Marie-Claire est donc un viol. L'adolescente retourne en pleurant dans le petit HLM où elle vit avec sa famille. Elle s'enferme dans la salle de bain et se jette sous la douche. Porter plainte ? Traumatisée, elle n'y pense même pas. Surtout, elle ne veut rien dire à sa mère, Michel. Modeste employée de la RATP, elle a bien assez de problèmes à régler. Elle élève seule ses trois filles. Chaque mois, cette mère courage se débat avec son maigre salaire de 1500 francs. Elle sacrifie sa vie personnelle pour que ses petites mènent une vie décente. Les semaines passent. Marie-Claire n'a plus ses règles. Accablée, elle finit par se confier à sa mère.
Marie-Claire, vous aviez quel âge lorsque vous êtes aperçue que vous étiez enceinte ?
J'avais 16 ans.
À qui en avez-vous parlé en premier ?
Au garçon d'abord, et puis... ensuite à ma mère. J'ai dit que je voulais absolument pas garder un enfant d'un voyou et puis c'était pas la peine. J'avais pas de situation, je venais de quitter l'école, j'étais pas préparée à avoir un enfant et que je voulais pas être dans la même condition que maman elle a été quand on nous a élevés toutes les trois. Alors j'ai donc décidé qu'il faudrait que je me fasse avorter.
Et votre mère a compris.
Voilà.
Elle vous a aidé.
Ma mère m'a aidé comme elle a pu. Bien sûr, dans ces moyens, on avait ces moyens-là. Si on avait eu d'autres moyens, on aurait fait d'autres moyens. J'aurais été à l'étranger. Mais on avait ces moyens-là.
En France, la loi du 31 juillet 1920 interdit l'avortement ou sa publicité. En 1942, il est même déclaré crime contre l'État. Jusqu'à la libération, celle qui le subit ou le pratique risque la peine de mort. Comme Marie-Louise Giraud, une faiseuse d'anges qui a été guillotinée en 1943. À l'époque, 300 000 avortements sont pratiqués en France chaque année, selon les estimations des associations féministes. Les femmes les plus fortunées se rendent en Suisse ou en Angleterre, où cette intervention est légale. Celles qui n'ont pas les moyens ingurgitent du détergent, de l'eau oxygénée, bref, toute substance censée mettre fin à la grossesse. Certaines s'introduisent des aiguilles à tricoter, des pointes de bique, des baleines de parapluie, des méthodes qui provoquent de lourdes séquelles physiques et psychologiques.
Cette malade enfouie sous ses draps, c'est une jeune fille de 20 ans. Elle est atteinte de septicémie, c'est-à-dire d'une infection généralisée, très grave et autrefois régulièrement mortelle à la suite d'un avortement mal fait. Elle a été sauvée de justesse par les techniques modernes de réanimation. Il y a de 300 à 800 000 avortements clandestins chaque année. On estime à 1 pour 1000 le nombre des accidents mortels et les complications sont fréquentes.
Seuls quelques médecins acceptent de contourner la loi. Mais ils font payer le prix fort. Marie-Claire et sa mère vont en faire les frais. Le gynécologue leur réclame 4 500 francs, soit 3 fois le salaire mensuel de Michel. C'est énorme. Elles doivent trouver une solution. Michel se confie à sa collègue Lucette Dubouchex. C'est une femme sévère, une catholique fervente, farouchement opposée à l'avortement. Mais elle s'émeut tout de même de la situation. Tout un réseau d'entraide féminin se met alors en place. Elle en parle à une autre salariée de la RATP, Renée Saucé, une ancienne enfant de l'assistance. Renée a été abandonnée très jeune par sa mère. Elle sera forcément touchée par l'histoire de Marie-Claire. C'est le cas. Renée trouve le numéro de téléphone d'une avorteuse, Micheline Bambuc. Elle l'appelle, mais le coup de fil tourne court. Micheline n'est en rien une faiseuse d'anges professionnelle. Certes, elle a déjà posé des sondes, mais seulement sur elle-même. Elle leur raccroche au nez. Michel insiste. À force de supplications, Micheline Bambuc finit par se laisser convaincre. Cela leur coûtera 1200 francs, une sacrée somme. Michel rassemble toutes ses économies, emprunte ce qui manque. Le 5 novembre, l'avorteuse procède à l'opération, avec une gaine de fil électrique. Durant les jours qui suivent, Marie-Claire souffre le martyr, jusqu'à cette nuit du 20 novembre où elle se vide de son sang. À l'hôpital, on réclame une nouvelle fois 1200 francs à la mère avant d'effectuer toute opération. Sans plus réfléchir, Michel signe un chèque sans provision. Marie-Claire s'en sort, mais à quel prix ? La vie reprend peu à peu son cours. La jeune fille quitte le collège pour devenir vendeuse de chaussures. Grâce à ses 300 francs mensuels, elle aide sa mère à rembourser ses dettes. Tout aurait pu s'arrêter là. Mais un matin de janvier, le drame frappe à nouveau la famille. Durant l'hiver, Daniel, le violeur, est arrêté pour un vol de voiture. Il sait que Marie-Claire a avorté. Lorsque la police l'interroge, une idée diabolique germe dans son esprit. Il va la dénoncer dans l'espoir qu'on le laisse tranquille. Marie-Claire est balancée par son propre violeur. Le 12 janvier 1972, des agents débarquent chez les Chevaliers. Michel est dans son lit, avec la grippe. « Pas la peine de nier », assène l'un des policiers pour l'intimider. La mère ne tarde pas à tout révéler. L'avortement de sa fille et l'identité des complices. Toutes sont inculpées. La mineure doit être jugée devant le tribunal pour enfants de Bobigny le 11 octobre. Les autres femmes comparaîtront le 8 novembre devant le tribunal correctionnel. Marie-Claire est dévastée. Mais sa mère veut se battre. Toujours fourrée à la bibliothèque de la RATP, elle se souvient d'un ouvrage écrit par une avocate, Gisèle Halimi. Il était consacré à Djamila Boupacha, une militante du FLN violée en Algérie par des parachutistes de l'armée française. En 1971, la juriste a fondé avec Simone de Beauvoir et l'écrivain Jean Rostand l'association Choisir, un mouvement pour la libre maternité. C'est grâce à cette structure que mère et fille se retrouvent dans le bureau de Maître Halimi. L'avocate accepte de les défendre. « Mais ça va être difficile, prévient-elle. Il vous faudra du courage et de la détermination. » Michel est prête à aller jusqu'au bout. « Nous ne sommes pas coupables, affirme-t-elle. Nous sommes les victimes d'une loi injuste. » Gisèle Halimi a déjà une idée. Elle veut mener le procès politique de l'avortement et attaquer la loi de 1920. Marie-Claire se prépare comme elle peut. Elle note ses états d'âme et des phrases à dire pendant l'audience, sans imaginer la tornade médiatico-judiciaire qui va s'abattre sur elle.
Chaque année, des tribunaux condamnent 5 à 600 femmes pour avortement illégal. C'est donc un procès assez banal qui va s'ouvrir ce matin à Bobigny. Et pourtant, cette affaire...
Le 11 octobre 1972, son procès s'ouvre à huis clos devant le tribunal pour enfants. Une foule dense se presse aux abords du bâtiment. Parmi les 250 personnes venues pour la plupart à l'appel de Choisir et du MLF, on reconnaît l'actrice Delphine Seyrig, derrière ses lunettes noires. Les slogans des manifestantes parviennent jusqu'à la salle d'audience. « Nous avons tout avorté. L'Angleterre pour les riches, la prison pour les pauvres. » Ils émeuvent aux larmes la jeune fille. Les débats sont très rudes, d'autant que le procureur émet des doutes sur son viol. La défense, elle, insiste sur la profonde injustice de la législation. Dans son édition du jour, le journal L'Humanité livre d'ailleurs des chiffres éloquents. Les 600 condamnations annuelles pour avortement ne concernent en effet que des femmes de milieux modestes. Dans la salle d'audience, Maître Halimi attend la décision du juge avec impatience. Une condamnation, aussi légère soit-elle, remettrait complètement en cause sa stratégie. Quand, enfin, le verdict tombe, c'est l'euphorie sur le banc des accusés. Marie-Claire obtient la relaxe. Les militantes qui ont pu assister au procès jubilent. La jeune fille quitte le tribunal sous les applaudissements et les cris de joie.
Marie-Claire est ressortie libre ce matin du tribunal pour enfants de Bobigny. Marie-Claire a 17 ans, 17 ans et déjà derrière elle un drame de grande personne.
Marie-Claire a été acquittée car on estime qu'elle n'avait pas délibérément choisi de commettre ce délit alors qu'elle l'a reconnu.
À France Soir, l'avocate peut affirmer que les femmes, dorénavant, ne se laisseront plus condamner en silence. La presse relaie sans compter l'événement qui divise désormais les Français. Dans l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol, le journaliste Marcel Signac affirme qu'il enverrait volontiers en prison toutes les Marie-Claire sans l'ombre d'un scrupule. Après cette première victoire, Gisèle Halimi doit préparer la défense de Michel et de ses co-accusés, dont le procès débutera dans quelques semaines. Elle a une idée de génie. Elle va utiliser les débats judiciaires pour dénoncer l'illégalité de l'avortement. Et pour cela, elle décide de convoquer des célébrités à la barre, comme Jean Rostand, Simone de Beauvoir ou Delphine Seyrig. De nombreux grands témoins prennent position en faveur des inculpés, notamment la journaliste Claude Servan-Schreiber, qui a reconnu avoir avorté dans le magazine Elle. Mais aussi Michel Rocard, alors dirigeant du PSU, un parti de gauche, ou Jacques Monod et François Jacob, prix Nobel de médecine en 1965. Beaucoup ont rencontré Michel avant le procès. Le professeur Monod, touché par le calvaire des chevaliers, envoie même un chèque de 3000 francs à l'ordre de Michel pour participer aux frais de l'avortement. Le second procès, le 8 novembre, fait encore plus de bruit que le premier. Des manifestations orchestrées par le MLF agitent toutes les grandes villes de France. Malgré la virulence du procureur, Michel et ses complices ne manifestent aucun repentir. Au contraire, elles dénoncent la législation et affirment que c'est aux femmes et à elles seules que revient la décision de garder ou non leur enfant. « Nous ne faisons pas le procès d'une loi », s'insurge le président du tribunal. « Moi, personnellement, je le ferai », rétorque Maître Halimi. Les témoins illustres se succèdent à la barre. L'intervention du professeur Miliez, médecin et croyant particulièrement respecté du corps médical, marque les esprits. Il affirme que si Michel Chevalier était venu le trouver, il l'aurait aidé.
J'ai volé au secours de cette malheureuse femme, receveuse de la RATP, dans une situation affreuse, qui n'avait probablement, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai vu, aucune autre solution que celle qu'elle a adoptée. J'étais au secours de la veuve et de l'orphelin. Parce que je crois qu'il y a des cas où, malheureusement, la femme n'a pas d'autre recours. Cette fille de 15 ans et demi, il fallait l'aider, c'est bien sûr. Et je l'ai dit. J'ai dit que si sa mère était venue me voir, je l'aurais aidée.
Je ne vois pas pourquoi nous, catholiques, imposerions notre morale à l'ensemble des Français, déclare-t-il. Ses propos lui vaudront d'être publiquement condamné par le Conseil national de l'Ordre des médecins. Les jours suivant l'audience, des centaines d'articles, d'émissions de radio et de télé s'intéressent à l'affaire. Le tribunal de Bobigny reçoit une multitude de lettres et de pétitions demandant la relaxe des inculpés. C'est en fait toute la France qui s'émeut et prend parti face à la tragédie des chevaliers. Le verdict tombe le 22 novembre. Micheline Bambuc écope d'un an de prison avec sursis pour avoir pratiqué l'avortement. Les collègues Lucette et René sont relaxés. Michel, la mère de Marie-Claire, est condamné à 500 francs d'amende avec sursis.
Pensiez-vous être condamné ou pas ?
Ah ben,
J'espérais être laxée, mais enfin, j'avais quand même très peur d'être condamnée. Ce que j'en pense, c'est que c'est formidable. Les juges ont enfin pris leurs responsabilités, ils ont pris connaissance des lois, que c'était plus applicable.
Madame Chevalier, c'est presque la relaxe.
Oui, on a mené un grand pas, c'est sûr.
Si vous aviez apporté un jugement, ce que vous venez de faire avec votre fille, est-ce que vous recommenceriez?
Bien sûr que je recommencerai. Je suis très heureuse pour moi, mais tout le monde en profitera. Nous continuerons. Pour toutes les
Ce jugement est quand même un pas irréversible. C'est un pas irréversible pour deux raisons. D'abord, parce que je vous le dis, il a exprimé le désarroi de tous les juges devant ce problème. C'est clair, les attendus sont contradictoires. C'est qu'il n'y avait pas, je le répète, de raison de faire des poids et des mesures. Et c'est un pas parce que le procès lui-même, quel qu'ait été le jugement, le procès lui-même a marqué un pas irréversible.
Elle fera appel du jugement. Le ministère public laissera traîner l'affaire jusqu'à la prescription. Elle n'aura pas à s'acquitter de cette somme. Pour l'époque, le tribunal a été relativement clément. Ce procès très médiatique a ouvert une réflexion au sein de la société française, poussant chacun à se positionner pour ou contre l'avortement. En janvier 1973, Georges Pompidou, alors président de la République, admet publiquement que si l'interruption de grossesse le révulse, les lois en vigueur sont dépassées. Il faudra encore quelques années de lutte pour que l'idée fasse son chemin. En 1974, Simone Veil, ministre de la Santé, défend un projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse dans un hémicycle composé à 95% d'hommes.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame.
Après plusieurs jours de débats houleux et parfois même violents, la loi Veil sur l'IVG est finalement adoptée. Elle est promulguée le 17 janvier 1975. Les Marie-Claire de France et de Navarre n'iront plus en prison.
À partir d'aujourd'hui, les Françaises peuvent se faire avorter librement, en tout cas dans les 10 premières semaines de leur grossesse. La loi, votée le 28 novembre à l'Assemblée nationale et 3 semaines après au Sénat, et qui vient de faire l'objet d'un examen du Conseil constitutionnel, a été publié ce matin au Journal officiel.
Désormais, un avortement pourra être réalisé par un médecin, dans un cadre hospitalier, avant la fin de la 10e semaine de grossesse. Tout ça, en partie, grâce au courage d'une modeste jeune fille d'une cité de banlieue. Ce texte, écrit par Léo Pajon et adapté par Anne-Vincent Sini et Christine Ivarenne, a été enregistré par Diane Mottez, mixage Lucas Vibot.